50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
De retour sur les ondes de la rage du peuple sur CFLX, on est maintenant en interview avec Sandy Tremblay d'Illusion Emploi.
Bonjour.
Bonjour.
Sandy, ça va être moi qui va t'interviewer. D'habitude, on a environ une demi-heure d'entrevue, mais on va peut-être dépasser cette demi-heure-là si on a beaucoup de choses à dire. Toi, tu viens en tant que employé chez Illusion Emploi, qui est un groupe de défense et de promotion des droits des travailleuses et des travailleurs non syndiqués. Donc, je pense qu'on se parlait aujourd'hui, puis tu me disais que le groupe Illusion Emploi est né d'une initiative de la TREVEP. Donc, en plus que Illusion Emploi soit une organisation au sein de la TREVEP, elle en est née.
Oui. Donc, on est resté membre de la TREVEP parce qu'on fait beaucoup d'éducation populaire autonome. Mais effectivement, comme tu le mentionnais, on est issu d'une initiative de la TREVEP. Ce qui s'est passé, il faut se reporter au début des années 1990. Le gouvernement du Québec avait investi beaucoup d'argent dans les programmes extra. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs et aux auditrices le principe des programmes extra à l'époque, c'est on prend une personne sur l'aide sociale et pour la réintégrer sur le marché professionnel, sur le marché du travail, on va offrir aux entreprises et aux organismes communautaires ou enfin, peu importe l'organisme, si c'est ouvert aux entreprises, c'est ouvert à tout le monde, de payer le salaire de cette personne-là pendant 6 mois. Alors, la personne qui est sur l'aide sociale va faire un stage dans une entreprise. Et la philosophie en arrière de ça que le gouvernement avait à l'époque et qui a maintenu parce que des programmes comme celui-ci, ils ont changé de nom, mais ça existe encore, c'est de dire, bien, étant donné qu'on fait la formation, ça laisse un laps de temps à l'entreprise ou à l'organisme à trouver du financement pour embaucher par la suite cette personne-là qui va déjà avoir les qualifications requises. Les problèmes qu'on retrouvait à l'époque dans ces programmes extra-là, c'est entre autres que les gens ne connaissaient pas les conditions dans lesquelles ils s'étaient engagés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un salaire, il y avait seulement une bonification sur leur chèque d'aide sociale. Et ils étaient engagés pour faire 20 heures avec des tâches bien définies. Ces gens-là n'avaient jamais eu accès à leur contrat de travail, à leur contrat. Au fond, c'était pas un contrat de travail, mais c'était tout comme, là, parce que ce que l'employé faisait comme tâche, à la fin, ça finissait vraiment par être une prestation de travail au même titre qu'un autre salarié aurait fait. Alors, les gens ne connaissaient pas les exigences de leur contrat, se trouvaient à faire beaucoup trop d'heures pour ce qui était payé. Alors, souvent, c'était bien en deçà du salaire minimum. N'avaient pas accès au congé de maladie. On sait très bien qu'un congé de maladie, c'est pas payé. Dans la loi des normes du travail, t'es pas payé quand t'es malade. Par contre, on t'assure que même quand t'es malade, quand tu vas revenir, tu vas avoir le même poste que tu avais avec les mêmes conditions. Ces gens-là n'avaient pas accès à ça. Pas accès au congé parental, pas accès au chômage, n'avaient aucun...
C'était une réintroduction au marché du travail d'une manière qui était super précaire.
Précaire, puis ce qu'on réalisait aussi, plus les programmes passaient, à la fin des programmes, c'était très rare que les organismes ou les entreprises gardaient cette personne-là à l'emploi.
Okay.
Les organismes n'avaient pas d'argent, les entreprises, ben, ils préféraient renvoyer cette personne-là et prendre un autre programme. Alors,
okay,
la TREVEP avait décidé de faire des sessions d'information pour informer les gens sur l'aide sociale de leurs droits. Et c'est comme ça qu'Illusion Emploi s'est formée, d'où le titre Illusion Emploi, parce que ça donnait l'impression d'être un employé, mais on ne l'était pas. Et par la suite, vers presque dans les années 2000, il y avait de moins en moins de ces programmes-là. Alors, on s'est questionné à savoir est-ce que ça vaut encore la peine, est-ce qu'on devrait se saborder. Et ce que les membres de l'organisme ont décidé de faire, c'est d'élargir la mission à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses non syndiqués.
Okay.
D'où la mission actuelle.
Puis après ça, c'est l'ensemble des travailleurs et travailleuses non syndiqués. Vous l'avez découvert de quel aspect, en fait, votre intervention peut-être parler de entre ce moment-là et ce que vous faites présentement. Donc, dans ce laps de temps-là, comment vous avez vu ça?
Pour les gens qui ont déjà fait affaire avec un organisme un peu comme la nôtre, ils vont sûrement se questionner à savoir c'est quoi la différence différence entre Illusion Emploi et la Commission des normes du travail? Parce que la Commission des normes du travail, qui est une institution gouvernementale, a comme nous, dans sa mission, l'idée de donner de l'information sur la loi des normes, d'informer les gens de leurs droits, mais ils travaillent autant avec les employeurs que les employés. Illusion Emploi, nous, on s'est vraiment profilé sur les droits des travailleurs et des travailleuses, donner de l'information, se rendre directement dans les milieux de travail, puisque la Commission des normes du travail n'a pas nécessairement les effectifs pour le faire de manière satisfaisante pour tout le monde. Ils font un certain travail très bien. Mais dans les écoles secondaires, ça faisait quelques années qu'ils faisaient plus, nous, on a pris la relève. Alors, Illusion Emploi, ce qu'on a développé comme mission, on donne des séances d'information dans les écoles, peu importe quand on est un candidat. On a construit une convention de travail ici, parce qu'on sait qu'une relation entre employeur et employé, ça peut toujours être amélioré. Et quand un employé qui vient d'être embauché a entre les mains un contrat de travail, il sait exactement à quoi ça sert. Il sait c'est quoi les congés de droit, il sait si jamais il y a un problème, c'est quoi le processus dans lequel il va s'embarquer, à qui avoir se référer en cas de litige. Alors nous, on fait la promotion de ça. On a également un service conseil où on accompagne les gens en prise de données d'informations sur la loi des normes. Une personne qui va en médiation avec son employeur parce qu'elle a vécu du harcèlement qui se joue dans le travail ou autre problème, bien, on peut l'accompagner. Parce que bien souvent, en cas de médiation, il y a l'employeur avec son avocat et il y a l'employé. C'est extrêmement intimidant, les gens ne connaissent pas leurs droits, ils ne savent pas à quoi s'attendre. Alors l'employeur va donner un montant, il va donner une offre, puis l'employé va l'accepter parce que tout ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête la question. Alors nous, on les accompagne pour s'assurer qu'il y ait le maximum qui peut obtenir, que l'emploi soit respecté. Donc c'est un peu vers ça que la mission s'est amenée ces dernières années. Les thèmes qu'on aborde le plus en ce moment, c'est les jeunes et le travail actif. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de précarité chez les jeunes, qu'il y a de l'exclusion, il y a des disparités de traitement. Et nous, c'est deux choses contre lesquelles on lutte énormément. Pour vous expliquer un peu ce que j'entends par exclusion et disparité de traitement, pensons à l'exclusion. Les cueilleurs de petits fruits, les gens durant l'été qui cueillent des framboises, des fraises, eux n'ont pas accès au salaire minimum. Donc, tu peux travailler toute une journée, à la fin, tu t'es fait 40 $ pourtant, tu aurais fait 66 $ si tu avais été le salaire minimum. Ça, nous, on est contre ça. On peut penser également aux ouvriers agricoles qui travaillent dans les champs. Ils font énormément d'heures par semaine et ils ne sont pas soumis au temps supplémentaire. Ils font plus que 40 heures, mais eux n'ont pas la bonification sur leur salaire.
Oui, ça, je pense que c'est les avantages de travailler au noir, c'est ça?
Oui, c'est un peu aussi. On retrouve, imaginez, les ouvriers agricoles, c'est clairement inscrit dans la loi. Okay. C'est clairement inscrit dans la loi que ces gens-là ne sont pas soumis. C'est une exclusion aux normes du travail. Mais effectivement, toute personne qui travaille au noir va vivre des exclusions comme celle-là. Je pourrais, disons que j'avais aujourd'hui à convaincre quelqu'un de ne pas travailler au noir. Je pense que quand une personne le fait, travailler en dessous de la table, travailler au noir, en tout cas, ne pas être déclaré, faut vraiment avoir conscience des impacts. Entre autres, je vous donne un exemple très clair, une serveuse. Vous savez que la part des serveurs et des serveuses ne déclarent pas l'ensemble de leur pourboire. Pourtant, au sens de la loi, on a l'obligation de déclarer l'ensemble de nos revenus. Et il y a des avantages qui vont avec ça. Une personne qui travaille, imaginez, okay, parce que moi je l'ai vécu avec une de mes amies, puis il y en a un paquet de gens comme moi. Une serveuse qui est déclarée seulement une semaine sur deux. Une semaine sur deux, elle a une paye, l'autre semaine, c'est de l'argent dans une enveloppe, ça paraît nulle part. En plus de ça, rajouter des pourboires qu'elle n'a pas déclarés. La personne, elle tombe enceinte. Quand même pour elle, on est content. Le congé de maternité. Elle a le droit, mettons qu'elle choisit d'avoir 55 % de son salaire pendant un an, ce qui est un choix selon le régime québécois d'assurance parentale. Bien, si elle n'a pas déclaré tous ses revenus, disons qu'elle a fait 20 000 $ mais que sur ses rapports d'impôts, elle a déclaré 8 000 $ Okay, on fait le chiffron, là. Une semaine sur deux, elle n'a pas déclaré et 2 000 $ de pourboire qu'elle n'a pas déclaré sur ses impôts. Bien, quand elle tombe enceinte, elle a le droit à 55 % du 8 000 $ qu'elle a déclaré sur ses impôts. C'est un des avantages qu'on a de travailler au noir. Ça, plus le risque si jamais on se blesse en travaillant, on n'est pas couvert par la CSST. Si, sachez comme ça, je n'encourage pas les gens nécessairement à travailler au noir, mais ça fait partie des droits qu'on a. Si c'est votre cas et que vous avez un accident au milieu de travail, eh bien, si vous avez été payé par chèque, qu'il y a eu un paiement dans votre compte à toutes les semaines d'une même personne, vous êtes capable, en faisant une plainte à la Commission des normes du travail, de faire reconnaître que vous étiez employé de l'entreprise, puis d'avoir vos prestations sur le CSST. Vous perdez tout le lien avec votre employeur parce que lui va avoir une énorme pénalité pour avoir quitté toutes ses cotisations, etc. Mais ça vous donne quand même une petite pénalité. mais ça reste que c'est toujours désavantageux, toujours un désavantage pour l'employé de travailler au noir. C'est toujours un avantage pour l'employeur, parce que, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais à chaque fois que vous gagnez $1 dans un lieu de travail, ça en coûte minimum $1.16 à votre employeur. Le dollar que vous avez gagné, votre 4 % qu'il doit mettre de côté pour que vous ayez une paye durant vos vacances, il doit payer ses cotisations à la CSST et il doit payer ce qu'on appelle de remise gouvernementale. Quand on additionne tout ça, c'est des frais d'avoir des employés.
Donc, pour des employés qui travaillent sans faire de déclaration de revenus, l'entrepreneur qui l'embauche économise de l'argent. Mm-hmm. Donc, c'est un peu une illusion là, que d'être...
Puis souvent, on entend souvent que le mythe, que quand on travaille au noir, on a un meilleur salaire, ce qui est totalement faux. Si vous regardez les gens qui travaillent sur une ferme, ça ne gagne pas $20 de l'heure parce qu'ils sont pas déclarés. Là, ils vont faire peut-être 20 sous de plus, là, ce qui, à la fin de l'année, ne vaut vraiment pas le risque de ne pas être protégé par le chômage, de ne pas être protégé par le régime québécois d'assurance parentale, de n'accumuler aucune régie des rentes du Québec. Hein, vous savez que le maximum qu'une personne âgée peut espérer avoir si elle n'a pas de compensation personnelle ou dans une entreprise à 60 ans, c'est 16 000 $. Le seuil de faible revenu au Québec, il est à 21 000 $. Alors, plus vous cotisez à la régie des rentes, plus vous vous approchez de ce 16 000 $-là. Ce qui n'est pas énorme, mais essayez au moins d'aller chercher le maximum que vous pouvez. Alors, c'est avantageux de déclarer tout ce qu'on gagne en salaire et en revenu, parce qu'effectivement, ça nous donne accès à des mesures de protection sociale qui ne sont pas négligeables.
OK. Donc, ça, c'est grossièrement les enjeux qui sont reliés à l'organisation Illusion Emploi. L'organisation, en plus d'être membre de la Trovep, elle est aussi membre du Front d'action...
Du Front de défense des non-syndiqués.
Ah, je me trompe.
C'est correct. Ça fait environ 25 ans que le Front de défense existe et il regroupe 25 organisations. On est dans les 25, là. La Fédération des femmes du Québec, les grands syndicats, là, la CSN, le Conseil central de la CSN, la FTQ. On retrouve également des organismes comme Illusion Emploi, au bas de l'échelle, qui est un peu le pendant d'Illusion Emploi, mais à Montréal. Le canot à Trois-Rivières, beaucoup d'organismes qui travaillent avec des travailleurs migrants et des aides à domicile. 25 organismes qui se réunissent ensemble et à chaque année, bien, on se penche sur des priorités, des luttes qu'on pourrait mener d'un point de vue national pour essayer de faire progresser les conditions de travail des gens qui ne sont pas syndiqués. Entre autres, l'automne dernier, on a beaucoup porté la lutte pour l'augmentation du salaire minimum. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler tout de suite ou si on attend au retour de la pause. En fait, qu'on revendique, vous m'arrêtez les gars, si jamais je vais trop vite, vous avez le droit.
Ouais, okay.
En fait, ce qu'on revendiquait, le Front de défense, c'était une augmentation de salaire minimum à la hauteur de $10.16. Ça, c'était l'an passé. Parce que cette année, on l'a actualisé avec l'augmentation de l'inflation et on est à $10.43.
Donc, normalement, si le salaire minimum suivrait l'inflation, il serait à $10.43.
OK. En fait, pourquoi on a chiffré ça à $10.43? On va prendre les chiffres actuels. Là. Parce que si on calcule la semaine normale de travail, qui est de 40 heures, pour qu'une personne atteigne le seuil de faible revenu, qui est un petit peu plus élevé que 21 000, elle doit faire 10.43. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'une personne qui travaille temps plein devrait au minimum atteindre le seuil de faible revenu. On s'entend qu'il devrait le dépasser, là, mais au moins atteindre ça, ce qui est loin d'être le cas. Il faut savoir, on a gagné 50 sous de l'heure. Pour avoir 50 sous, là, il a fallu une pétition de 30 000 noms, des rencontres politiques avec les députés, avec les ministres de toutes les régions. Il a fallu également beaucoup de pression internationale. En 2006, le PIDES, qui est un comité de travail de l'ONU, avait blâmé l'ensemble des provinces du Canada parce que leur salaire minimum ne permettait pas aux gens de sortir de la pauvreté.
Okay. Wow. Ben, on va continuer d'entendre parler des différents enjeux reliés aux travailleuses et travailleurs non syndiqués dont le groupe Illusion Emploi fait la défense et la promotion des droits. On s'en va écouter une chanson, Seigneur Gizmo.
Oui, on va écouter Boris Vian avec son fameux déserteur tout de suite après la publicité. Donc on se revoit après la pause.
À tout de suite.
Félix, 95,5 FM. La radio communautaire de l'Est.
Le Olivier, une place à la Chaudière, une invitation irrésistible pour Jugant Charme et ton fort. À deux pas d'Ottawa, la capitale nationale, au cœur de l'Ottawa, laissez-vous séduire. Pédalez la route verte, vibrez la fièvre urbaine, goûtez la vie champêtre. Pour un séjour mémorable en famille ou entre amis, le Holiday Inn Plaza La Chaudière comblera vos désirs avec en plus une promotion sur une troisième nuitée. Réservez maintenant 1-800-567-1962, 1-800-567-1962.
Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant notre programmation, contactez-nous par téléphone 819-566-2787. Ou par courriel à l'adresse commentaires@cflx.qc.ca. CFLX 95,5 FM. La radio communautaire de l'Est.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la paix, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Et pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des pompes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. Il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
De retour sur les ondes de La Rage du Peuple, on écoutait Boris Vian avec sa chanson Le Déserteur. Puis on va profiter du moment pour faire tirer les billets du Shazam Fest. Pour vous rappeler en gros ce que c'est le Shazam Fest, c'est un festival qui regroupe, ma foi, beaucoup de personnes, des lutteurs, des danseurs, des chanteurs ou skateboarders, poètes, DJ. Bref, une bonne panoplie d'artistes et de professionnels des arts qui risquent d'être notamment des artistes tels que Mononcelle, de Moon Grail, Ali Duke, Problèmes de communication, Off-Break et plusieurs autres, avec notamment de la lutte, slam poésie et des activités pour les enfants. Tout ça aura lieu à Barnston West sur je pense que le chemin Waze Mill. Et les biens ont une valeur de 55$. Donc on en a deux à faire tirer. Et pour deux biens, en fait.
Deux paires de biens.
Ah, deux paires de biens, c'est encore mieux pour inviter ses amis. Donc pour m'inviter ces charmants paires de biens, vous pouvez appeler au 819-566-2787, qui est le numéro de téléphone de la station. Et mon camarade Jawad va prendre l'appel pour vous dire si vous êtes heureux gagnant ou non. et pour gagner un billet, il faut aussi pouvoir me donner le nom de la tune qui vient jouer. Donc on a actuellement un appel, on va bientôt savoir si on a un gagnant ou non.
Pour rester dans le cadre de l'émission, ben on va donner le nom du gagnant ou de la gagnante en retour de la pause après 5 heures. Donc, nous en sommes encore à l'entrevue avec Sandy Tremblay du groupe Élysion Emploi. On rappelle que le groupe Élysion Emploi fait la défense et la promotion des droits des travailleuses et des travailleurs non syndiqués. On parlait que le groupe Élysion Emploi était né d'une initiative de la Trovette, qui est l'acronyme pour Table ronde des organismes volontaires en éducation.